Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 28 février 2025. Le syndicat des employés manuels de la Ville de Québec a suspendu sa grève générale illimitée. Après une rencontre de médiation, les représentants syndicaux ont été à même de constater qu'il y avait de l'ouverture de part et d'autre afin de trouver des solutions concrètes à la négociation actuelle. Devant ce constat, le syndicat a décidé de donner une chance aux discussions à la table de négociation. Les installations sportives de loisirs et de plein air, fermées depuis le début de la grève, ont commencé à rouvrir leurs portes depuis hier. Les citoyens sont invités à consulter la section « Installations sportives » sur le site Web de la Ville pour connaître les horaires à jour. Le mouvement communautaire se dote d'un levier de communication avec Riposte, la première plateforme vidéo entièrement dédiée à l'action communautaire autonome au Québec. Fruit d'un partenariat entre le Centre de formation populaire et l'organisme PAIR, Riposte aspire à devenir un carrefour stratégique pour tous ceux et celles qui souhaitent approfondir leur compréhension et leur engagement pour l'action communautaire autonome. Pour Patricia Vinci du Centre de formation populaire, Riposte rend visible la part essentielle et unique de l'action communautaire autonome à la transformation de la société québécoise depuis la Révolution tranquille à nos jours, tout en outillant celles et ceux qui veulent faire partie du mouvement. On peut visiter le nouveau site à l'adresse riposte.media. Un rapport d'enquête d'Amnesty International sur l'exploitation des travailleuses et travailleurs migrants au Canada fait l'objet d'une présentation samedi à la Maison de la coopération au 155 boulevard Charest-Est. Lors de cet événement participatif, une représentante d'Amnesty International présentera le récent rapport de l'organisation intitulé « Le Canada m'a détruite, exploitation des travailleuses et travailleurs migrants au Canada ». Les participants et participantes pourront ensuite prendre part à une discussion collective sur le travail décent au Québec dans un contexte de migration de la main-d'œuvre. La rencontre se terminera par un léger goûter exotique. L'activité débute à 13 heures. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 20 avril, Manif d'art présente Jardin d'hiver 4 qui se déploie sous le thème de l'écho des contes. Ce rendez-vous artistique prend la forme d'un parcours d'art public sillonnant le centre-ville de Québec. La programmation comprend des visites guidées avec sa commissaire ainsi que des périodes de contes intimes et chaleureuses. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur manifdart.org. Ces micros ouverts au Centre Jacques-Cartier ce soir, l'occasion de partager ces textes dans une ambiance chaleureuse. Les personnes voulant simplement assister à la soirée sont les bienvenues. Le Centre Jacques-Cartier est situé au 421 boulevard Langelier. Les portes ouvrent dès 18h30. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. La simplicité et la nudité même de la vie de l'homme dans les âges primitifs emportaient du moins cet avantage qu'elle lui permettait de demeurer un simple résident de passage au sein de la nature. Sitôt rassasié de nourriture et de sommeil, cet homme est en mesure d'envisager la suite de son périple. Il campait en ce monde, pourrait-on dire, et quand il n'était pas occupé à suivre le cours des vallées, c'est qu'il l'était à traverser des plaines ou gravir des sommets. Puis, patatras, l'homme, les hommes, sont devenus les outils de leurs outils. celui qui cueillait en toute indépendance des fruits chaque fois qu'il avait faim, est devenu fermier. Celui qui trouvait abri sous les branchages d'un arbre est devenu propriétaire. Nous ne campons plus la nuit venue. Nous nous sommes fixés sur terre et nous avons oublié le ciel.
Ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir, j'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs, 22 sous c'est pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout j'en ai pour 8 dollars et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier, oh oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Simplifier, oh, simplifier. Oui, simplifier. J'ai regardé dans ce pays ce que j'ai trouvé, m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheurs, trop de couteaux, trop d'objets et de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de gaspillage alimentaire et aussi un peu de jardinage parce que c'est la fête des semences qui s'en vient en fin de semaine avec notre invité Gabriel Dessureau qui est de l'organisme Sauve ta bouffe. Avant ça, j'ai quelques petites lectures, annonces à vous transmettre. Dans le devoir de mercredi, on parle de Hubert Reeves. Hubert Reeves, entre les lignes de l'azur, une exposition au Planétarium de Montréal retrace la vie du célèbre astrophysicien. Alors, moi, je vais essayer d'y aller. Je pense que ça dure jusqu'à la fin de l'été. Et Hubert Reeves, c'est un personnage iconique là, au Québec, entre autres pour ce qu'il nous a transmis au niveau de la connaissance de l'univers, mais aussi un grand écologiste qui nous a beaucoup inspirés. Moi, je l'ai vu quelques fois en conférence, puis c'était toujours savoureux de le voir. Fait que, et semblerait, là, c'est un peu un survol de sa vie. Là, je ne sais pas, on ne détaille pas dans l'article, là, mais... probablement qu'il y a des objets là, qui étaient significatifs, là, signifiants pour Hubert Reeves. En tout cas, c'est au Planétarium actuellement, là, au Planétarium de Montréal. Il y a aussi un texte dans Le Devoir de jeudi qui a retenu mon attention. La sobriété sera enchâssée noir sur blanc dans la réforme de l'énergie. Christine Fréchette et ses collègues parlementaires ont amendé le projet de loi 69. Une avancée importante est survenue mardi dans l'élaboration du projet de loi 69 sur l'énergie, selon la ministre Christine Fréchette. Grâce à un amendement longuement négocié, la notion de sobriété énergétique est désormais enchâssée dans le futur plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Sera désormais écrit noir sur blanc dans le plan et déterminera des orientations, des objectifs et des cibles en matière de sobriété énergétique. Ces exigences s'ajouteront à celles équivalentes qui ciblaient déjà la production d'énergie et l'efficacité énergétique. Dans sa documentation, le gouvernement du Québec définit la sobriété énergétique par une diminution des besoins à la source. La sobriété consiste à revoir nos habitudes de consommation afin de prioriser les besoins essentiels en s'éloignant de ceux qui seraient superflus. La place officielle accordée à la sobriété dans le plan a été accueillie avec intérêt par les groupes écologistes dans un communiqué collectif transmis mercredi au Devoir. C'est majeur, ajoute en entrevue Samuel Pagé-Plouffe, directeur des affaires publiques chez Vivre en Ville. L'amendement correspond à la plus grande demande formulée par cet organisme au sujet du projet de loi 69. C'est une bonne nouvelle. Ensuite de tout ça, ben, comme je le disais tantôt, on aura la fête des semences en fin de semaine que je vous recommande. Il y a plein de conférences. Je pense qu'il faut aller sur le site des urbainculteurs là, pour aller voir la programmation là, de la fin de semaine. On a eu un café philo hier à la librairie Le Mot de Tasse. Le prochain, ça sera le troisième vendredi, j'ai pas la date exacte, troisième vendredi du mois d'avril, du mois de mars, excusez. On n'aura pas de café philo au mois de Tasse pour nous, comité Saint-Pitié volontaire, là, pour le mois de mars. Seulement un à la librairie La Liberté. Par contre, j'ai vu qu'on avait un autre, il y a d'autres personnes qui organisent des cafés philo. Je vais peut-être aller voir, là, parce que ça m'a attiré mon attention. C'est le 18 mars, mardi 18 mars, atelier philosophique. Venez vivre l'expérience d'une discussion philosophique avec un animateur au programme Un thème choisi, le soir même par les participantes, des réflexions ou du plaisir arrivé, possible à partir de 18 heures pour commander breuvage et pâtisserie. Contribution volontaire. Puis là, on demande de réserver. Là, il y a une adresse Internet. J'imagine que si vous allez sur le site Internet du Mot de Tasse, là, vous trouverez le détail de ça. En tout cas, c'est une autre personne que je n'ai pas rencontrée. Je pense que je sais c'est qui, mais je ne suis pas certain. Aussi, dernière chose que j'ai appris de Gabriel ce matin, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée de, disons, de sobriété mondiale. La journée s'appelle le Blackout économique mondial. Puis, on demande aux gens de ne pas acheter dans les grandes chaînes. Si on a acheté aujourd'hui quelque chose, faire nos achats dans des petits commerces locaux. Mais éviter tout ce qui est grandes chaînes, le Walmart, Amazon, les grandes chaînes. Alors, je pense que c'est mondial, blackout économique mondial, ou en tout cas, au moins nord-américain. Alors, on prend une pause musicale, puis au retour, on va discuter avec Gabriel sur le gaspillage alimentaire et la fête de semences.
Ce qui se passe dans ma tête, je ne peux le garder pour moi. Il n'y a plus rien qui arrête un cœur qui est en émoi. Mes états d'âme, je les séchois sur une feuille comme exutoire pour m'assurer qu'elle me lise et qu'elle en fasse l'analyse. Je dessine avec mes mots les contours de mes souvenirs qui ont atteint de leurs échos les fenêtres de l'avenir. maintenant en pause. Moi qui souhaitais une rencontre, comment ne pas devenir morose quand la solitude me confronte. Je lui ferai l'humour et le drame, quelques phrases qui ont du charme. Sur moi elle a tant de données, elle pourrait me faire chanter. Je dessine avec mes mots les contours de mes souvenirs qui ont atteint de leurs échos les fenêtres de l'avenir. Je dessine avec mes mots les contours de mes souvenirs qui ont atteint de leurs échos les fenêtres de l'avenir. Sur moi elle a tant de données qu'elle pourrait me faire chanter. Ben, elle me dit, ben, chantez maintenant.
Alors, c'était Jean-Marc Aurel de son album « Je cours après la lune ». C'était la pièce « Ce qui se passe dans ma tête ». Avant ça, on avait eu Richard Séguin de l'album « Retour à Walden ». C'était la pièce « Simplifiée ». Alors, Gabrielle.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi, Jacques?
Ben oui, je suis content de te revoir. Là, ça fait merci. Deux fois là, cette année. Là.
Oui, 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 merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir jaser avec toi de gaspillage et de simplicité par le fait même.
Ben, en fin de compte, on est un peu collègues parce qu'on est associés aux Amis de la Terre.
Exact.
T'es de l'organisme Sauve ta bouffe qui est comme affilié aux Amis de la Terre.
C'est ça, c'est un comité des Amis de la Terre au même titre que Simplicité volontaire est un comité des Amis de la Terre.
Voilà, exact. Fait qu'on se côtoie de temps en temps.
Oui.
Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va revenir sur le... On en avait déjà parlé, mais je pense qu'on avait d'autres choses à dire. On n'avait pas terminé. Il y a beaucoup de choses à dire sur le gaspillage alimentaire. Puis, de plus en plus, là, on voit là, qu'il va y avoir des tarifs avec les Américains. Il va falloir devenir plus créatif avec l'alimentation, se faire à manger, tout ça. Ça fait que je pense que l'organisme Sauve ta bouffe va devenir de plus en plus pertinent. Là.
Ben oui, en effet, tu sais, avec ce qui se passe aux États-Unis, les Amis de la Terre et aussi Sauve ta bouffe, on a tendance à vouloir être protectionniste puis à encourager le local, encourager l'économie locale, encourager l'achat chez nous. Tu sais, justement, tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est le blackout économique. Tu sais, idéalement, oui, aujourd'hui, d'encourager local, mais d'encourager local à l'année, ça serait encore mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on achète un achat, dès qu'on sort de notre portefeuille, il y a quelque chose du vote à quelque part. Donc, on montre à une entreprise qu'on l'encourage. Fait que quelles entreprises on peut encourager quand on sort notre portefeuille? Ben, idéalement, de choisir l'alimentation locale, c'est toujours mieux. Puis oui, ces temps-ci, il y a vraiment une conscience qui est en train de se développer par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. On achète chez nous, c'est important.
C'est l'envers de la médaille, dans le fond. C'est que oui, les tarifs, ça va affecter les gens. C'est indéniable, ça va affecter l'économie du Québec. Mais d'un autre côté, ça va forcer des comportements plus simples, plus écologiques, comme tu dis, l'achat local, encourager nos petits producteurs.
Oui, c'est sûr que c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle ce qui se passe en ce moment, mais c'est sûr que si on veut voir l'aspect positif, t'as raison, que ça... T'sais, on espère que le résultat que ça va donner, c'est que ça va stimuler notre économie locale, puis que ça va être meilleur pour la planète, parce que c'est sûr que si on encourage local, ben il y a moins de déplacements qui sont associés, donc moins de gaz à effet de serre, et que c'est sûr que ça peut être aidant pour l'environnement. En effet.
Il y aura un bon côté à tout ça. Là,
oui, oui, on espère. En tout cas, on ne voit pas l'avenir, mais on espère.
Mais il faut être créatif. Oui. Fait que de ce côté-là, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport au gaspillage alimentaire dans ce contexte-là?
Bien, c'est sûr que tu sais tout le resserrement économique qu'on voit actuellement, c'est sûr que l'économie ne va pas super bien. Il y a des emplois qui sont précaires, qu'on ne sait pas si les gens vont perdre. Je vais parler d'Amazon qui récemment a mis à pied beaucoup de ses employés. C'est 4000, je pense, au Québec. Oui, c'est ça, les grandes ce monde actuellement décident de faire bouger les choses d'une façon qui nous plaît pas, puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi, qui deviennent plus serrés. Donc oui, on va devoir devenir créatifs avec nos aliments pour éviter plus jamais le gaspillage alimentaire dans nos cuisines. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour rentabiliser notre épicerie. Il y a énormément de nos trucs qui sont sur le site web de Sauve ta bouffe, notamment comment conserver les aliments au maximum. Par exemple, les fruits et légumes sont vraiment sensibles à une bonne conservation. Il y a des aliments qui vont au frigo, mais il y a des aliments qui ne vont pas au frigo. Fait que de développer ces connaissances-là pour faire durer nos produits le plus longtemps possible, c'est une des premières choses qui va vous éviter de payer dans le beurre puis d'avoir un aliment que finalement vous allez jeter. Parce que c'est l'équivalent de 25 $ par semaine qu'on gaspillerait en nourriture. C'est sûr qu'il y a des familles qui gaspillent plus, puis il y a des familles qui gaspillent moins, mais en moyenne, une famille au Québec gaspille l'équivalent de 25 $ de son épicerie par semaine. Puis on ne pourra plus se permettre ça. Là. Ça sera de moins en moins possible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, malheureusement. Donc, c'est ça. Va falloir être créatif. Va falloir bien mieux conserver nos aliments, peut-être utiliser des parties d'aliments qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Là, on voulait parler de potager tout à l'heure. Là. Je ne vais peut-être pas en parler là tout de suite, mais va falloir être créatif avec nos
aliments. Puis s'organiser aussi comme tu parles de... C'est notre frigo, là, il faut... Mm-hmm. C'est quasiment une activité de la gestion du frigo.
Oui, oui, c'est du temps, là, en tant que jeune maman, là, j'ai deux jeunes enfants, puis c'est du temps, là, je vous le cacherai pas, que d'économiser son épicerie pour bien... puis bien gérer son frigo, c'est une des principales choses qu'on doit faire. Tu sais, c'est pas très compliqué, mais j'avoue que c'est un petit peu énergivore, quand même, là.
Oui, puis, tu sais, comme moi, j'ai une roulette de masking tape sur mon frigo. Parce que j'ai remarqué que quelque chose qui n'est pas daté, c'est quelque chose qui est perdu souvent. Parce que tu fais te manger quelque chose, tu n'as pas le goût d'en manger le lendemain. Puis là, le surlendemain, peut-être pas. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, coudonc, ça fait combien de jours que c'est dans le frigo, cette affaire-là?
C'est une excellente idée.
Et là, je me suis rendu compte que quelque chose qui n'est pas daté, là, c'est sûr, une pomme, il n'y a pas besoin de dater ça, mais tout ce qui est des plats qu'on prépare, nos restants, là, il faut les dater, les mettre dans le frigo. Mm-hmm. Puis là, habituellement, un restant, c'est consommable à peu près 3-4 jours environ.
Ça dépend ce dépendant. Qu'il y a dedans. Je dirais que pour tout ce qui a de la viande, des produits laitiers, oui, 3-4 jours, c'est un bon barème. Mais ce qu'il n'y a pas de viande, pas de produits laitiers dedans, ça peut aller jusqu'à 7 jours, là, général, sans problème. C'est sûr qu'on vérifie. Faut regarder, voir si sentir. Mais en même temps, il y a des bactéries, la listériose, le colis, ça se sent pas, ça se goûte pas. Fait que c'est sûr que des fois, on est mieux d'être plus prudent quand même. Là. J'avoue, je travaille pour contrer le gaspillage alimentaire, mais je veux pas non plus que personne soit malade. Fait qu'il faut faire attention. Mais par rapport à la roulette de papier collant avec pour écrire la date de masking tape, c'est vraiment une bonne idée. Puis j'ajouterais que avec ces plats-là, là, des restants qu'on... Au lieu de... En fait, l'idée, c'est idéalement de les mettre sur la tablette du haut pour les avoir à vue. Tu sais, la tablette du haut, elle devrait servir à ça, à mettre les plats qu'on... Tu sais, les restants de sauce, les plats, les restants de plats, les petits restants qu'on sait... qu'on n'a pas consommé, ben on les met à la hauteur des yeux comme ça. T'sais, c'est une question d'habitude, on le voit facilement. Puis de les mettre aussi, d'essayer d'éviter de les mettre dans des plats opaques. Donc, on les met dans des plats transparents, soit en plastique ou en verre. Comme ça, ça évite. Parce que des fois, en les mettant dans des plats opaques, on finit, c'est ça, deux semaines plus tard avec une mauvaise surprise. Ah, oups, je l'ai oublié. C'est quoi donc ça? C'est dégueu. On jette. Fait que ça fait des mauvaises surprises. Donc, ça peut être des bons trucs aussi pour éviter de gaspiller ces aliments-là qu'on a passé du temps à préparer. Là, c'est juste dommage aussi de dire qu'on met ça à la poubelle, autant financièrement que on peut pas se permettre souvent de prendre le temps de cuisiner puis après de jeter ça. C'est juste dommage.
Là. Il y a le tofu. Moi, j'ai de la misère avec le tofu parce qu'il faut le rincer à chaque jour.
Oui, idéalement, puis, de le changer.
Moi, je mets un tape sur mon tofu. Puis là, à chaque jour, je l'ai mis le 2. Puis là, j'écris toit. Fait que ça veut dire que je l'ai rincé le toit. J'essaie de le rincer à chaque jour. Puis il dure pas plus qu'une semaine, le tofu, même rincé à chaque jour. Puis ils disent même de faire attention avec le tofu.
Mais tous les produits qui sont dans l'eau, comme ça, il faut effectivement faire attention. Mais sinon, le tofu, ça se congèle. Je pense qu'on avait déjà parlé dans une émission précédente.
Oui. Est-ce que ça donne un résultat qui est pas pire?
Ça dépend de la sorte de tofu, je vais t'avouer. La texture, après, en fait, on presse comme faut le tofu. Puis après ça, quand on le décongèle, le tofu, il perd énormément d'eau. Fait c'est comme un bon moment pour le mariner. Parce qu'après, il va tout réabsorber le jus de la marinade. Puis on peut le déchiqueter après. Le déchiqueter, puis le faire frire dans la poêle. Puis ça nous fait des petits morceaux de tofu. Vraiment, non, c'est chouette. Pour vrai, la texture n'est pas comme d'habitude, mais c'est pas non plus... c'est peut-être un petit peu plus granuleux, mais ça vient vraiment absorber une belle quantité de marinade. Fait que ça peut être un bon truc. Puis un autre truc que j'aurais à te donner si jamais, à te donner et aux auditeurs pour le tofu, ça peut être simplement le râper. Puis après ça, de mettre des épices au travers, puis on le met au four, on le fait sécher. Ça nous dure plus longtemps, puis après ça, on peut mettre ça partout. On peut mettre ça sur une salade, et on peut venir mettre ça, dans un plat de riz. Ça rajoute des protéines. Fait qu'en le faisant sécher un petit peu à basse température au four avec des épices au travers, on se fait comme une espèce de PVT, donc protéines végétales texturisées, qu'on peut venir ajouter à des pâtes, à plein de choses. Puis c'est super goûteux. Puis c'est une petite texture vraiment chouette, fait que ça peut être une bonne façon de passer nos restants de tofu.
Parce que le tofu, c'est vraiment un aliment miraculeux parce que c'est des protéines pas chères.
Ouais.
De qualité.
Oui,
là.
Vraiment.
Mais c'est juste.
Puis on en pousse au Québec. Il y a des belles marques québécoises biologiques québécoises. Ça se trouve du local. On parle d'achat local.
Quand on cherche des protéines locales, le tofu, c'est. Mm-hmm. Mais il faut le cuisiner.
Oui.
Puis aussi, j'ai remarqué, malheureusement, il faut qu'il soit frais, tu sais. Mm-hmm. Et j'ai remarqué ça, en tout cas, ça, c'était un truc que j'ai vu, c'est que souvent, ils vont mettre la date d'expiration 2 mois plus tard, ce qui est une bonne idée. Si tu voyais la date d'expiration dans 2 mois, ça veut dire qu'il est assez frais.
Mm-hmm.
Puis
okay.
Quand ça fait... S'il est dans 2-3 semaines, j'ai remarqué que... Il commence à sourire un peu. Là.
Ah,
il goûte moins bon. Ouais. Là, parce que les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le tofu, c'est parce qu'ils ne mangent pas du tofu frais. Le tofu, il faut qu'ils goûtent les amandes. Si ça goûte, quand on le crue, là, quand on le mange cru, il faut qu'il goûte bon en partant.
Oui. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, si tu as une bonne marinade, même si ça fait une couple de semaines, je pense que ça peut être.
Tu fais revenir dans le tamari.
C'est ça. Puis tu sais, bon, le fameux Ricardo, là, sa recette de tofu général Tao, on est végétarien à la maison, mais quand on reçoit, souvent on fait cette recette-là, puis tout le monde apprécie. Là. Je pense qu'en général, les gens qui ne sont pas végétariens parlent pratiquement toujours de... Quand on parle de recette de tofu, là, cette recette-là revient tout le temps. Le tofu général Tao de Ricardo, c'est vraiment une bonne façon de faire manger du tofu au monde. Puis après ça, moi, la façon qu'il a de le cuisiner, moi, je le fais pour d'autres plat, pas nécessairement du général Tao, puis c'est super bon, ça devient croustillant, puis... Ouais, faut apprendre à cuisiner, le tofu.
Faut aimer cuisiner. Comme moi, j'ai une nouvelle recette que j'ai élaborée dernièrement, qui est pas compliquée, c'est au lieu du poulet cacciatore, je fais du tofu cacciatore.
Oh!
Puis c'est délicieux.
Ah oui?
Tu sais, le poulet cacciatore, c'est bon, hein, tu sais, ça goûte bon, cette recette-là.
Mettons que moi ou les auditeurs savent pas de quoi tu parles.
Ah, ben c'est une recette classique italienne, le poulet cacciatore, c'est que tu fais revenir des oignons, des champignons, beaucoup d'ail.
Oui.
Puis, tu mets des tomates, une canne de tomates, puis oui. tu mets tes cuisses de poulet dans ça, puis tu laisses cuire là-dedans.
OK.
Dans ce jus-là. Mais au lieu de mettre des cuisses de poulet, tu mets du tofu, des gros cubes de tofu.
OK.
Puis ça a un goût, à cause de l'ail surtout, là, ça a un goût délicieux, là. C'est vraiment bon, là.
À essayer. Je vais essayer ça avec, avec plaisir.
Bien là, on va prendre une petite pause musicale.
Parfait.
Puis là, on va embarquer dans nos sujets encore plus à fond, là, au niveau de réduire le gaspillage et la fête des semences.
Oui.
Les vrais amis sont comme les arbres. Ils ont hâte de te voir, mais reste imperturbable si tu ne passes pas dire bonsoir. Même après une longue absence, tu peux renouer avec eux. Il n'y a pas d'intermittence, te revoir les rend heureux. Les vrais amis sont comme les arbres, quand t'es très loin ou bien tout près, sans jalousie et sans alarmes, ils croissent, c'est leur métier. Les vrais amis sont comme les arbres, ils tendent leurs bras, ne plient pas, ils grimpent vers la lumière, c'est ce qui les met en joie. Les vrais amis sont comme les arbres, l'univers est dans leur peau, qu'il fasse pluie, glace ou bourrasque, ils parfument et tiennent chaud. Les vrais amis, quand ils trépassent, n'en finissent pas de fleurir. Dans nos mémoires opiniâtres, même couper les arbres pris.
C'était Julose Beaucan de son album Le Jaseur Boréal. C'est la très belle chanson Les Vrais Amis. Alors, Gabriel, qu'est-ce qu'on. Là, on a parlé un peu de nos recettes de tofu. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport au gaspillage avant qu'on embarque dans la thématique de la fête des semences?
Il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait dire par rapport au gaspillage. L'idée, c'est vraiment souvent d'être créatif. Puis, tu sais, on a parlé de la date de péremption en général. Pour ce qui est dans le frigo, on essaie de regarder la date de péremption, mais pour ce qui est à l'extérieur du frigo, fait que dans le garde-manger, c'est pas inquiétant, là. En général, même les entreprises alimentaires sont pas obligées de mettre une date de péremption pour les aliments qui sont périssables au-delà de 90 jours. Ils les mettent pour une question de rassurer les consommateurs, parce que souvent, les consommateurs le demandent d'avoir une date de péremption, mais c'est pas pour rien que ces aliments-là, souvent dans les grandes guignolées, par exemple, on les appelle les non-périssables, c'est parce qu'ils ont une durée de vie vraiment au-delà, en général, de la date. Donc, pour tout ce qui est aliments qui se retrouvent dans notre garde-manger, pas s'inquiéter trop avec la date de péremption. Puis des fois, on peut être créatif aussi, là. Par exemple, en ce moment, j'ai des biscottes qui datent de 2024, de mars, je crois, 2024. Puis bien, la date de péremption, en fait, ce qu'elle nous indique souvent, c'est pas nécessairement la salubrité. C'est la texture, le goût, la valeur nutritive et la couleur. Ça se peut que ça change au-delà de la date de péremption, mais ça vient pas nécessairement indiquer la salubrité. Pour ce qui est de la viande, du yogourt, du fromage, ça, c'est différent, là. Ça, faut vraiment, c'est vraiment important.
Les œufs aussi.
Les œufs, oui, les œufs. En général, ben pas le yogourt. Le yogourt, si on dépasse un peu la date, en général, c'est vraiment pas grave. Particulièrement si on cuit. Donc, par exemple, si on utilise du yogourt pour faire des painanes ou une recette dans laquelle, par exemple, un pain aux bananes dans lequel on va venir mettre du yogourt, là, c'est moins inquiétant si jamais vous voulez être sûr de pas être malade. Mais c'est sûr que si jamais votre yogourt a une couleur étrange, n'hésitez pas encore là, à le jeter. Mais c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'en ce moment, j'ai des biscottes dans mon garde-manger qui datent de 2024. Puis honnêtement, ils goûtent pas grand-chose. Je dirais même qu'ils ont comme un petit goût, pas de poussière, là, parce qu'ils sont emballés. Là. Je me suis fait donner ça, en fait. Fait qu'ils sont emballés presque individuellement. C'est un beau gaspillage de d'emballage, par contre. Mais fait que c'est ça. Mais avec ces biscottes-là, ce que j'ai le goût de faire, ce que je vais essayer sûrement, et ce que je vois... Il y a des désavantages aux réseaux sociaux, mais des fois, il y a quand même des avantages qu'on peut trouver des recettes intéressantes. Mais il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils pulvérisent des biscottes ou du pain sec, donc des toasts Melba, par exemple. On les pulvérise, puis on en fait comme une espèce de farine qu'on va venir après ça ajouter à des mélanges, à des préparations comme préparation de crêpes, par exemple. On va venir mettre cette poudre-là de biscottes. Puis tu sais, l'avantage, c'est que le pain qui est sec ou la biscotte, c'est comme elle a fermenté avant, pendant sa conception. Donc, c'est comme un pain avec de la levure. Fait que ça vient nous faire une petite farine qui est assez complexe, qui a un goût vraiment riche, puis qui va venir ajouter un petit quelque chose de très intéressant, par exemple, à une batch de crêpes. Donc, à essayer en fin de semaine, si vous avez le goût de passer du pain sec ou des petites biscottes, ça peut être quelque chose que vous essayez. Donc, quand je dis d'être créatif, des fois, là, ça rouvre un monde de possibilités, des fois, de ne pas juste consommer l'aliment tel quel. Un truc qui fonctionne super bien aussi pour les restants ou les fruits et légumes qui sont moins beaux. Peut-être que vous avez une pêche à la maison qui, oups là, elle n'est pas très belle à manger telle qu'elle. Elle est pâteuse, par exemple, ou farineuse. Ben, on va venir la couper. Puis on va la mettre dans un bac au congélateur avec d'autres parties de fruits. On va faire ça avec toutes nos parties de fruits, en fait. Donc, par exemple, vous avez une pomme, même chose, pâteuse, elle n'est pas très bonne comme ça. On va venir la couper, on va la mettre dans le bac. Puis après ça, avec mon bac de fruits que je remplis au fur et à mesure, ben, je vais pouvoir cuisiner une croustade, je vais pouvoir cuisiner un smoothie, je vais pouvoir cuisiner plein de choses. Puis je le fais avec mes légumes aussi. Donc, j'ai un bac au congélateur, j'ai un bac pour mes restants de fruits, mes restants de légumes. Donc, on parle pas d'aliments qui sont plus bons, là. On parle juste des aliments qui sont pas intéressants à manger tels quels.
Moche un peu, là.
Ouais, qui sont soit mous ou bien, tu sais, farineux, pâteux. Puis, tu sais, parce que des fois, on se dit, ben avec ces aliments-là, je peux faire, mettons, avec ma pêche qui est moins belle, je peux faire un smoothie. Oui, mais souvent, j'ai pas le temps d'en faire un là, maintenant, ou bien je suis au travail, j'ai ma pêche que je m'attendais à manger comme collation, puis finalement, elle est pas très bonne. Ben je vais venir la ramener à la maison, je vais couper le bout que j'ai pas que j'ai mangé, parce qu'à un moment donné, on veut quand même rester salubre. Puis on coupe le restant en petits cubes, on vient mettre ça au congélateur, puis quand je vais avoir le temps, je vais faire une croustade, je vais faire un smoothie, je vais venir prendre les morceaux qui m'intéressent dans mon bac de fruits au congélateur, puis je vais vraiment cuisiner avec ça. Puis je fais la même chose avec mes légumes. Un poivron qui est rendu ratatiné, mou, puis qui est pas bon à manger tel quel, puis mettons, il n'était pas prévu dans ma cuisine cette semaine. Je le coupe en cubes, je le mets au congélateur. Même chose avec
les bananes aussi, les bananes noires. Si vous avez des bananes, il faut vous trouver une bonne recette facile de pain aux bananes. Là.
Oui, ben oui.
Et là, soit qu'on... quand elle est noire, soit qu'on fait un pain aux bananes ou soit on les envoie au congélateur tel quel, puis là, on les ressort. Pour le pain aux bananes, quand même, qu'elle est congelée, décongelée, c'est parfait.
C'est vraiment pas grave, en effet. Puis, tu sais, une belle petite banane, une demi-banane dans un smoothie, ça nous fait une belle texture vraiment onctueuse. Ça rajoute vraiment de la richesse au smoothie. Fait que oui, d'abord, mais d'avoir des bananes congelées dans un congélateur, c'est toujours pratique. Je dis pas de les accumuler, là. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport aux bananes pendant une de mes conférences. Il y a une fille qui me disait, hey, nous, on est deux à la maison, puis j'achète toujours mes bananes au Costco. Mais je les perds tout le temps, tu sais, parce que ben, les bananes, le paquet de bananes au Costco, c'est comme une douzaine de bananes quasiment. Là. Elle a dit, on est deux, fait qu'on réussit jamais à manger tout ça. C'est quoi ton truc pour, tu sais, nous aider à moins gaspiller les bananes? Puis j'ai comme une réponse plate qui a été... Ben, arrête de les acheter au Costco.
Oui.
Parce que si vous êtes juste une personne ou deux à la maison, le Costco, ça vaut pas la peine. T'sais, oui, c'est moins cher. C'est vraiment pas cher, le paquet de 12 bananes au Costco. Je vais vous le donner. Mais si vous êtes pour les jeter, ça vaut pas la peine. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est le fun de manger des bananes fraîches aussi, par exemple, coupées sur des toasts ou comme ça. Fait que, tu sais, même si tu t'accumules 20-30 de bananes au congélateur, tu finis tout le temps par en racheter parce que tu veux en manger des fraîches. Bien là, c'est insoutenable, la quantité de bananes.
Ça, tu étais une usine à gâteau aux bananes.
Bien là, c'est parce que c'est ça, à un moment donné, c'est ça. Bien, écoute, tu peux te faire une grosse batch de pain aux bananes puis d'en donner à tes amis, à ta famille, mais c'est pas vraiment réaliste. Là, donc...
En plus, dans mon pain aux bananes, j'utilise des restes. Ça aussi, les fruits secs, ça a une date de péremption, mais dans le fond, c'est bon pour toujours, là, des fruits secs. Toujours. Peut-être pas 10 ans, là. Mais,
longtemps.
Mais là, j'ai des fruits, des raisins secs, là, qui sont durs. C'est des petits cailloux, là. C'est tout compressé, dur. Il faut que je les défasse, là. Mais j'y mets dans ma recette de gâteau aux bananes, puis ils gonflent, puis ils viennent bien
beaux. Ben oui, ils sont comme réhydratés en le mettant dans...
C'est ça,
Fait
que le gâteau aux bananes, c'est un bon dépanneur.
Oui, c'est une bonne recette anti-gaspi. Puis même, je vais faire un petit peu de publicité pour notre livre de Sauve ta bouffe, j'en vais profiter, qui d'ailleurs va être en vente à la fête des semences en fin de semaine, un petit prix spécial de 10 $. On a un pain que je fais toujours à la maison avec les enfants, c'est vraiment gagnant. C'est un pain aux fruits, fait comme un pain aux bananes, mais tu peux mettre n'importe quel fruit que tu as sous la main au congélateur. Donc, mon fameux bac de fruits que je parlais tout à l'heure, souvent, j'en utilise une partie pour faire ce pain-là. Il y a du yogourt aussi dans le pain, fait que c'est vraiment un pain qui est nutritif, qui est super facile à faire. Tu peux mettre n'importe quel fruit qu'on a. Puis souvent, j'ai aussi tendance à passer ma rhubarbe, mes tiges de rhubarbe que j'ai dans mon jardin. Donc souvent, je les coupe en tronçons, en petits morceaux, je les congèle, puis j'ai tendance à les passer comme ça dans l'année. Puis un pain aux bananes, à la rhubarbe, c'est vraiment bon. Rhubarbe, puis des fois, je mets des fraises, des fois, je mets des framboises, c'est super, super bon.
Moi, la rhubarbe, je suis un maniaque de rhubarbe.
Ah ouais?
Je me fais de la compote de rhubarbe. Moi, j'achète à mesure, là, puis l'été, là, ça me dure, j'en mange pas chaque jour, mais ça me dure tout l'hiver là, que j'ai de la compote de rhubarbe que j'adore. Puis j'ai remarqué, petit truc de culinaire, là, faut dans notre compote, pas qu'elle soit trop liquide, là, mais juste une demi-cuillère du fécule de maïs.
OK.
Ça la fait épaisser, ça lui donne une texture là, plus épaisse, là, au lieu que ça soit trop liquide.
Oui. Oui. Ah, puis j'ai par rapport à la rhubarbe, là, parce que souvent on a tendance à la cuisiner sucrée, mais là, je travaille en anti-gaspillage. Des fois, il faut être créatif. Rhubarbe à essayer dans une recette indienne, fait que dans un curry, dans un mijoté indien, là, de rajouter quelques petits tronçons de rhubarbe là-dedans, ça fait super bon. Je l'ai déjà essayé. Le petit goût, c'est acidulé de la rhubarbe. Avec le curry, ça fait vraiment très bon. Donc, à essayer si jamais.
Ça, c'est-tu dans le livre, dans votre livre, Sauve ta bouffe?
Non, c'est une découverte que j'ai faite entre-temps depuis qu'il a été, écrit. Il date de 2020 quand même, notre livre. Mais non, ça, c'est une recette que j'ai découvert par après. Mais c'est vraiment super bon.
Mm. Bien, parlant du livre, de votre livre, on va prendre une petite pause musicale, puis on va se servir de l'idée du livre pour parler aussi du kiosque que vous allez avoir là en fin de semaine à la fête des semences.
Parfait.
Je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse, mon scraper le appel de bois pour vous rendre à la rue. Je vous laisse, la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en pitchant des balles de neige en glace en pleine face. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les tracts et qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop sucré. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer.
Alors, c'était un grand classique de Charles Lebois, « Demain l'hiver ». Petite chanson qui se moque un peu de nous qui ne partiront pas dans... En tout cas, moi, je vais pas dans le sud, là. Mais je veux pas critiquer ceux qui le font, mais c'est ça, il faut... Ça fait partie des pratiques qu'il va falloir réduire, hein, éventuellement, là.
C'est important de profiter des saisons aussi. Oui, tu sais, on est chanceux d'avoir ces saisons, oui, d'avoir cette diversité-là. De...
Oui.
Bon, OK, j'avoue que les journées qui fait moins 40, on se considère pas peut-être très, très, très chanceux, mais on a tellement, comme aujourd'hui, c'est tellement une, oui, belle journée d'hiver. Il fait beau, il fait soleil. C'est beau de voir les arbres tout habillés de blanc. Faut en profiter. On,
oui,
est chanceux.
Oui, puis hier soir, on avait notre café philo, là. Oui. Hier, il n'y avait pas de vent. C'était, il faisait comme... Je disais ça, c'est le temps parfait.
Mm-hmm.
Une journée d'hiver qui a une neige légère qui a tombé, mm-hmm, pas de vent, moins un.
Mm-hmm.
Et là, ben, il y a des personnes que je vais reconduire chez, mm-hmm, elles après le café parce qu'ils demeurent 1 ou 2 kilomètres du café. Puis là, ils m'ont dit, non, il fait trop beau, je vais marcher, mm-hmm, jusque chez nous. Ça, c'est... Fait qu'on, même aujourd'hui, avec, mm-hmm, le soleil... C'est magnifique.
Oui,
l'hiver...
Faut en profiter.
Oui. Bon, alors c'est ça, en fin de semaine...
Oui, Fête des semences,
samedi et dimanche. Programmation que vous pouvez trouver sur le site Internet des Urbains Culteurs.
Oui.
Puis, les Amis de la Terre et le comité Sauve ta bouffe, vous allez tenir un kiosque. On peut acheter votre livre...
Oui.
À prix réduit.
Oui, c'est ça. En fin de semaine, prix spécial salon à 10 $. Fait que c'est à l'Université Laval que ça se passe, la Fête des semences. Puis c'est vraiment, en fait, là, si vous avez un jardin, il faut aller à la Fête des semences pour aller vous chercher des belles semences d'ici, achat local.
Oui.
des semences, autant c'est ça pour préparer votre jardin. Parce que oui, il neige en ce moment, mais la préparation du jardin, les semis, ça commence bientôt. Donc c'est un bon endroit pour tous ceux qui ont moindrement le pouce vert ou qui ont un jardin ou des fleurs même. Il y a vraiment de tout là, à la Fête des semences.
Au pavillon Desjardins.
C'est
pavillon
ça,
Desjardins.
C'est
puis
ça.
Le stationnement est gratuit, fait qu'il y a en masse de stationnement. Puis
ouais,
moi, la Fête des semences, c'est comme une date que je mets sur mon calendrier,
oui,
parce qu'on commence à penser jardin, printemps.
Mm-hmm.
On dirait qu'on bascule de l'autre côté de l'hiver avec
ça,
la Fête des semences. Puis là, il y a des conférenciers, on, mm-hmm, parle de jardinage, puis il y a des semenciers, c'est pour ça que ça s'appelle,
ouais,
la Fête des semences. Puis il y a des semenciers, des gros semenciers, mais avec des semences bio, là,
mm-hmm,
mais aussi des petits semenciers là, artisanaux.
Ouais.
Puis là, on découvre des nouveaux cultivars, des nouvelles sortes de...
Ouais.
C'est vraiment un endroit à ne pas rater. Là. C'est, mm-hmm. Ça fait tellement du bien, la fête des semences.
Ou même, tu sais, des fois, c'est des semences de plantes indigènes, des plantes que, qui existent au Québec depuis des millénaires, puis qu'on n'a peut-être même pas tendance tant que ça à cuisiner. Fait que ça peut être vraiment intéressant d'aller découvrir ça. Puis nous, au kiosque des Amis de la Terre, mais plus précisément au kiosque de Sauve ta bouffe, ce qu'on va parler, c'est vraiment quelle partie des plantes se consomme. Parce qu'on a tendance à souvent manger vraiment le fruit ou le légume de ce qu'on fait pousser dans notre jardin, mais on se limite peut-être un peu. Puis tu sais, tant qu'à faire pousser un jardin, puis de savoir encore qu'est-ce qu'on met dedans, parce que nous, à la maison, souvent, bien après, ça dépend des personnes, mais souvent, on ne met pas de pesticides, on fait vraiment attention. Puis tu sais, tant qu'à faire, à mettre tous ces efforts-là dans notre jardin, bien nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous encourage à ne pas gaspiller votre jardin, à vraiment apprendre à connaître de vos plantes, puis apprendre à connaître qu'est-ce qui se mange sur la plante. Par exemple, une betterave, ben, c'est pas juste la betterave qui se mange. La betterave est la racine dans la plante, mais la feuille, elle se mange tout à fait. Même chose pour la carotte. D'ailleurs, la carotte, c'est assez extraordinaire. La feuille, les fans de carotte, ça goûte le persil. Fait que dans un taboulé, on prend de la feuille de carotte, on remplace le persil par ça. On n'y voit que du feu. Puis moi, ce que j'aime faire avec mes fans de carotte, c'est bon, je les coupe de la carotte et je les suspends, je les fais sécher. Puis après ça, ça me fait, les feuilles séchées, après je les réduis en poudre. Ça peut être tout simplement les frottant avec mes mains. Pas besoin de, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir des outils bien élaborés souvent en gaspillage alimentaire. C'est ça, fait qu'on la réduit en poudre, puis ça nous fait comme une petite épice de persil. Ça goûte vraiment le persil séché. Puis moi, je garde ça dans un bocal, ça me dure, j'en ai pour l'année. Donc, avec mes fans de carottes.
Quand on pense, toutes les fans de qui sont jetés, tout le monde jette ça.
Ben oui.
Puis après ça, on va aller un peu plus loin acheter du persil.
Oui, alors c'est exact.
On a du persil gratuit avec les carottes.
Exact, avec des fans de carottes, ça goûte vraiment le persil. Puis tu sais, souvent dans les marchés ou les jardins, les jardins, mais dans les épiceries, je vous cacherai pas que les fans de carottes, tu sais, c'est probablement ce qui a été le plus aspergé de pesticides. Dans les champs, tu sais, la carotte a été un petit peu sauvée parce qu'elle est dans la terre, mais les feuilles, ça a été aspergé à l'aller-retour. Fait que c'est sûr que les fans de carottes à l'épicerie, je vous recommande peut-être un peu moins. Faut vraiment bien, bien, bien les laver. Mais tu sais, si vous savez ce que vous avez mis dans votre jardin, puis que vous savez que vous ne mettez pas de pesticides, bien, Colin, profitez-en et mangez-les.
Ou des carottes bio carottes là, bio à ce aussi. Moment-là. Vous avez...
mais même dans les marchés, on n'a pas tendance à aller voir les fans de carottes. Souvent, première chose, des fois, ils les laissent juste pour faire beau. Première affaire que le marchand fait, c'est d'enlever les feuilles, puis nous donne les carottes. Ouais. Ben, je vous donne le défi cette année à vos marchés de légumes de dire hey, non, garde-les, je veux les cuisiner. Puis, tu sais, on peut faire des épices avec, mais on peut aussi faire du pesto. Du pesto de fan de carottes. Moi, j'aime ça le mélanger avec du basilic parce que j'adore le goût du basilic, mais on mélange les fans de carottes avec le basilic. On se fait un petit pesto. C'est super simple. C'est vraiment bon avec des pâtes. Et on peut le faire aussi avec les fans de navets, avec les fans de betteraves. En fait, là, ce qui est vraiment important de savoir dans notre jardin, c'est que les feuilles qui ne se mangent pas, c'est les feuilles de solanacées. Fait aubergine, tomate, puis concombre, zucchini. Zucchini, courge en général. Donc, on ne consomme pas les feuilles. Les zucchinis et les courges, par exemple, les fleurs se mangent. Puis là, les fleurs, d'ailleurs, c'est un repas qui est populaire en Italie. Donc, les fleurs frites de zucchini ou de courge, on fait comme ça nous fait faire des petits beignets. Donc, on vient tremper ça dans de la pâte qu'on fait frire. Après, ça fait des petites beignets de fleurs de courgettes. C'est super bon avec une petite sauce marinara à côté, trempée. Ça fait vraiment bon. On peut faire aussi des fleurs farcies. C'est ça. Bien, c'est sûr qu'on choisit les fleurs qui vont pas devenir une courge ou un zucchini parce que sinon vous allez être déçu de votre production. Il y a une question de fleurs femelles ou fleurs mâles. Là, j'avoue que je dépasse un peu mes compétences jardinières parce que j'ai jamais réussi à faire pousser des courgettes ou des courges chez moi. Voyons. Non, je suis pas une jardinière Invétéré.
Ça te prendrait un bon compost. Achète-toi un bon compost. Il y a des.
Je fais mon compost à la maison. J'ai mon compost à la maison, mais je pense que j'ai juste pas le tour. Okay.
Mais le compost qu'on fait à la maison est bon, mais des fois, et, exemple, je donne un exemple, les composts de crevettes sont beaucoup plus riches.
Ouais.
Et ouais. Puis même moi, on va revenir au. À la fête des semences, on, oui. C'est, ça, c'est l'endroit pour parler à d'autres jardiniers, mm-hmm. pour leur demander qu'est-ce que tu me conseilles comme compost, comme engrais. Puis, il y a une dame que j'ai rencontrée l'année dernière qui, elle, elle vend de la laine. Fait que là, je dis, mais quel rapport avec la laine? Mais elle dit, non, mais je vends de la laine. Mais aussi, je récupère, mais la laine, il y a une partie qui est pas récupérable pour les gens qui ont des moutons, là, c'est jeté mm-hmm. parce qu'ils font du compost avec. Puis elle s'est rendue compte que c'était un compost qui était très riche. Là. Ça fait qu'elle fait des granules de laine. Et ces granules...
C'est riche en azote, hein, que tu me dis.
Exactement. Et ça, l'azote, là, c'est l'ingrédient pour, comme par exemple, tout ce qui est les verdures, là, mais surtout les épinards. Ça prend beaucoup d'azote. On va des beaux épinards. Puis voilà, j'ai trouvé le secret pour mes épinards. fait que je vais retourner voir cette dame-là. Elle devrait être là cette année, j'espère, avec ses granules de laine. Il y a un facteur d'azote incroyable dans la laine. Là.
C'est ça, pour bien faire pousser nos légumes, il faut apprendre à les connaître, ces plantes-là. Comme tu disais, que les épinards ont vraiment beaucoup besoin d'azote. Mais on va venir mettre de l'azote... sous forme de granules de laine sur nos plants pour vraiment bien les faire pousser. Chaque plante a comme ses préférences. Voilà. Puis des fois aussi, l'idée, c'est qu'il y a des plantes qui produisent naturellement de l'azote. C'est notamment le cas des haricots. Toutes les légumineuses produisent de l'azote. On peut faire de la permaculture, venir placer nos plants d'haricots, placer nos plants de légumineuses à côté de, par exemple, les épinards pour... les faire pousser, puis après ça, il y a une petite symbiose qui s'installe dans la terre. Exactement. Fait que des fois, on n'a pas nécessairement besoin de rajouter des intrants dans notre jardin. On peut juste d'apprendre comment les plantes fonctionnent ensemble, lesquelles sont bonnes les unes pour les autres. Ça peut vraiment venir aider notre jardin.
Puis que... tu m'embarques sur le sujet de la permaculture. Oui. Il faut s'intéresser à ça, la permaculture. La permaculture, c'est un dialogue avec notre jardin. Au lieu d'être à sens unique, moi, j'appelle ça un producteur qui veut vivre, mais là, il veut juste des carottes dans son champ. Là.
Oui.
Mais nous, on est des jardiniers, on peut s'amuser puis entretenir un dialogue avec notre jardin, voir qu'est-ce que la nature veut faire, puis collaborer, tu sais, c'est un genre de collaboration. Puis là, bien, en permaculture, il faut observer, il faut apprendre. Puis les mauvaises herbes, ça n'existe pas, mauvaises herbes. Mm-hmm. Le mot mauvaises herbes, c'est pas non plus qu'on laisse envahir notre jardin de mauvaises herbes.
Mm-hmm.
Mais c'est d'autres plantes. Il y a cette plante qu'on ne veut pas, puis il y en a d'autres qu'on veut. Puis c'est de regarder ce que ça fait.
Mm-hmm.
Comme j'en avais parlé, le film Humus, qui est extraordinaire, c'est de la permaculture intense. Là. Il veut que ses champs s'auto-génère. Autrement dit, il n'y aurait plus besoin de mettre de compost. C'est comme, comme en forêt, dans le fond. Il n'y a personne qui va mettre du compost pour que ça pousse en forêt. Mm-hmm. Ça s'auto-génère. Et il laissait pousser le jargeau, qui était une mauvaise herbe pour les cultivateurs. Jargeau, c'est comme la mauvaise herbe.
Mais
le jargeau, c'est une légumineuse.
Oui.
Alors, ça fixe l'azote dans le sol. Alors, là, c'est ça. Alors, mais là, chacun, il faut faire, apprendre, tester, regarder. Moi, j'ai de la bourrache qui est apparue dans mon jardin, qui est magnifique, une plante extraordinaire pour la pollinisation. Les fleurs sont comestibles. Puis
les feuilles aussi que j'ai vues.
Les feuilles, il faut juste faire attention un peu, qui disait. Faire attention. Faut lire un peu avant. Il y a beaucoup de choses qui sont comestibles, mais qui disent, mais faites attention. Ça fait qu'il faut y aller au cas par cas.
Oui, oui, oui. Ben oui, c'est ça. Mais il y a plein de feuilles. Effectivement, là, il y a plein d'aliments, de parties de plantes qui se mangent, mais il faut faire attention, en effet. Là. Puis tu sais, si vous n'êtes pas sûr, c'est le genre d'information que vous pouvez trouver sur le site de Sauve ta bouffe. Donc, justement, par exemple, que les feuilles d'aubergine, ça se mange pas. Mais, par exemple, les feuilles de brocoli, ça se mange tout à fait. Puis on n'a pas l'habitude de les manger.
Oui,
pourtant,
oui.
Ça goûte le chou. Donc, on peut se faire une petite salade de chou avec ça, les faire griller au four, c'est super bon. Fait qu'il y a des parties d'aliments qu'on n'a pas.
Puis les brocolis, en passant, quand vous le cueillez, faut laisser le plant en terre. Alors, vous cueillez votre... C'est comme une fleur, dans le fond. Mm-hmm. Vous laissez le plant en terre. Puis, il va repousser d'autres petits brocolis. Fait okay. que vous allez avoir une deuxième récolte de brocolis, là, si vous le laissez. Là.
Ah.
Mais ils sont plus petits. Ça fait des petits brocolis.
Okay,
qui poussent autour de la tige principale.
Ah.
Fait que c'est des trucs qu'on apprend. Qu'à l'épicerie, étant donné on doit tout être uniformisé,
oui.
Bien, il ne pourrait pas, le producteur, arriver avec ses petits brocolis, il ne les vendrait pas. Un brocoli, mmh. ça donne forme, grosseur.
C'est ça.
Mais nous, les jardiniers, on s'en fout du marché. Là, on les mange, les petits brocolis.
Oui, mais c'est tellement dommage. Tu m'amènes à parler des normes. Là. Il y a le gouvernement du Canada établit des normes de vente et de qu'est-ce qu'un légume ou un fruit devrait avoir l'air. Hey, mais c'est, si tu verrais la liste, là, c'est épouvantable. OK, un céleri doit mesurer entre, il me semble, c'est 27 et 30 cm. Donc ça veut dire que tous les céleris qui ne mesurent pas entre 27 et 30 cm, ils s'en vont où? Souvent, ils sont jetés, malheureusement. Ou
mais Gabrielle, il faut que je t'interrompe.
Oui.
On a fini.
Ah, non, on a fini.
Mais
bon,
pour poursuivre cette conversation, je vous recommande de venir rencontrer Gabrielle au kiosque des Amis de la Terre en fin de semaine, au très bel événement, la fête des semences.
À l'Université Laval,
au pavillon des Jardins, samedi et dimanche.
Avec plaisir.
Et là, vous allez sur le site des Urbainculteurs pour la programmation.
C'est ça.
Alors, bonne semaine à tout le monde.
Merci.
Et la semaine prochaine. Puis en fin de semaine, nous.
Oui.